Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Je vous retrouve pour ma nouvelle recommandation culturelle et aujourd'hui je vous parle d'un art que j'aime énormément, les comédies musicales. J'ai la chance d'échanger aujourd'hui avec Olivier Lazzarini, directeur commercial et marketing de la société de production du spectacle Roi Lion. Si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir ce spectacle en famille, je ne peux que vous conseiller d'y aller. C'est un show qui émerveille grâce à la musique, l'histoire que l'on connaît tous, mais aussi la mise en scène et surtout les costumes et les décors. On vous parle dans cet épisode de comédie musicale, de casting d'enfants et surtout des clés du succès de cette production hors du commun pour toute la famille. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes le directeur commercial et marketing de Stage Entertainment France, l'entreprise de production du spectacle musical Le Roi Lion. Je suis donc avec vous aujourd'hui au Théâtre Mogador à Paris, où le spectacle est joué depuis un petit moment. Mais avant de parler du Roi Lion, j'aimerais que l'on parle des comédies musicales, une passion, comme je vous le disais, que j'ai depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est qu'une comédie musicale et pourquoi c'est intéressant de partager cet art aux enfants ?
Alors, une comédie musicale, c'est un spectacle vivant qui combine plusieurs disciplines, le chant, la danse, la comédie. C'est ce que les Américains appellent « triple threat », la triple menace, parce qu'en tant que comédien, on a trois fois la chance de se vautrer. Et par ailleurs, c'est un arc narratif avec des chansons qui sont au service de l'histoire, qui se déroulent généralement, avec deux types de comédies musicales, des comédies musicales qui sont nées dans l'après-guerre et qui avaient déjà un peu commencé avant la Seconde Guerre mondiale, qui sont plutôt tournées vers l'optimisme, vers la joie de vivre. Par exemple, Singing in the Rain, on voit bien. Et puis d'autres sur des sujets plus douloureux, qui sont, comme souvent le spectacle vivant, le reflet de sentiments exacerbés.
Et pourquoi est-ce que ça plaît aux enfants, les comédies musicales ?
Ça plaît parce que c'est rythmé, généralement, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène, qu'il y a des changements de décor, qu'il y a des costumes, qu'il y a plusieurs comédiens, qu'il y a de la musique. Et finalement, ils sont dans une sollicitation des sens multiples, beaucoup plus forte qu'un écran, bien entendu. Donc c'est une des recettes. Et puis il y a un côté magique. Il y a de plus en plus aujourd'hui sur les comédies musicales, on arrive à des effets spéciaux qui feraient bien rire les gens de l'intelligence artificielle et des technologies immersives de pointe, mais qui, dans une salle de spectacle, avec 1000 personnes autour, expriment cette magie.
Oui. Et justement, Le Roi Lion a ce côté très spectaculaire. Comment est-ce que vous expliquez le succès aujourd'hui du spectacle, à la fois auprès des enfants et des adultes ?
Alors, il y a une histoire. Et c'est une histoire universelle, parce qu'elle parle de la filiation, elle parle d'amour, elle parle de l'amitié, elle parle des moments d'angoisse. Donc, finalement, c'est le reflet de la vie. Il y a la dimension animalière, et on sait que chez tous les enfants, mais aussi chez beaucoup d'adultes, j'entendais encore un reportage ce matin en disant chez les gens dépressifs, l'arrivée d'un animal a tendance à permettre de surmonter les crises d'angoisse. Et puis, après, c'est le génie de Disney et le génie encore plus grand de Julie Taymor, la metteur en scène, celle qui a imaginé l'histoire, parce que l'histoire est fidèle au film, que beaucoup de gens connaissent, mais il fallait trouver une heure de plus que ce que dure le film. Donc elle a été chercher des musiciens, elle a travaillé sur des costumes, sur des masques, 37 000 heures de travail sur les masques, c'est colossal. Et elle a mixé aussi des univers culturels de différentes régions, ce qui fait qu'à la fois il y a un exotisme de ce qu'on ne connaît pas, et puis il y a des références. Elle a commencé sa formation dans une école de mime à Paris, Donc on va retrouver des choses qui nous parlent, dans la tradition du Mime Marceau. Et puis il y a les danses balinaises qui sont beaucoup plus exotiques pour nous, mais qui évoquent quelque chose. Il y a les chants africains. Donc c'est cette richesse qui fait que ça plaît à tout le monde. Ce n'est pas un spectacle pour enfants, mais c'est un spectacle dans lequel les enfants trouvent leur lecture, comme les adultes trouvent leur lecture.
Est-ce que justement vous pensez qu'il y a des choses qui ont été adaptées dans le spectacle pour ravir les enfants ?
Alors, ravir les enfants, on part quand même d'un dessin animé qui, lorsqu'il a été imaginé par Disney, était à destination des enfants. Donc on retrouve ces choses-là. Julie Taymor a sans doute forcé le trait. Je prends le duo Timon Pumba. On sait que les gamins, ils attendent le Hakuna Matata avec voilà, ce trio Simba, Timon et Pumba, et ce côté très premier degré, presque un peu pipi-caca du personnage de Pumba. Ça a été un peu forcé, y compris dans les traits des marionnettes et des personnages. Et donc voilà, c'est ce genre de choses. Mais il n'a pas été conçu pour les enfants, encore une fois.
Alors, ce qui est dingue avec Le Roi Lion, c'est qu'il existe depuis de nombreuses années. Vous allez me rappeler depuis quand il existe, ce spectacle. 26 ans, voilà. Et en France, quand est-ce que date la première représentation ?
Première exploitation en 2007, sur 3 saisons consécutives, 1 200 000 spectateurs. Mais on est bien modeste par rapport à nos collègues de Hambourg qui l'exploitent depuis 23 ans. Ou nos collègues même de Madrid, qui l'ont depuis 13 ans. Voilà. Sachant qu'aux États-Unis et en Angleterre, seule la Covid a eu raison de l'exploitation qui dure depuis 26 ans.
C'est dingue. Alors comment est-ce qu'on explique une telle longévité dans un spectacle pareil ?
D'abord, il s'adresse à tout le monde. Donc tout le monde peut venir. Et puis comme toujours, dans un phénomène comme ça, il y a les gens qui sont les pionniers, qui viennent immédiatement, puis il y a ceux qui se font un peu désirer, ceux qui attendent le bouche à oreille ou que ça vienne jusque chez eux. Mais je crois surtout que c'est un spectacle qui est incomparable. On ne retrouve jamais une telle complétude parce que, bien sûr, il y a les prestations des artistes sur scène, il y a la prestation des artistes sous la scène, les musiciens. Je rappelle qu'on a quand même un orchestre live. Ils ont des dizaines d'instruments, rien que les percussionnistes ont une quarantaine d'instruments. Et puis les décors, les masques, les jeux de lumière, les costumes, les accessoires. Voilà. Il y a tous les ingrédients pour une bonne recette artistique, au-delà de la bonne recette marketing. Et les gens s'y retrouvent, on vient, on revient. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu la première fois, on a envie de le faire partager. J'ai des enfants qui ont une trentaine d'années. Bah, c'est le premier film qu'ils ont vu au cinéma. Donc, alors, ils n'ont pas d'enfants pour le moment, mais s'ils en avaient, je suis sûr qu'ils emmèneraient leurs enfants. Et ils prennent plaisir à venir avec nous, leurs parents, en disant bah, « je me souviens que vous m'avez emmené voir le film ».
Et vous l'avez rappelé, ce n'est pas un spectacle à destination des enfants à proprement parler. Mais je crois quand même, en voyant le spectacle et en regardant le film, qu'il y a certains enseignements et certaines valeurs à retirer de cette histoire. Quelles sont ces valeurs, selon vous, à tirer pour les enfants ?
Alors, hélas, l'actualité nous fait pointer du doigt ce qu'un spectacle comme Le Roi Lion pourrait diffuser en positif, justement, d'une image négative, c'est-à-dire l'amitié, la paix, la recherche de la paix, la fraternité. Et donc il y a ces messages, ce côté multiculturel aussi. C'est un show qui est pluriel, avec des chants africains, avec 6 langages. Nous, sur la troupe, on a 11 nationalités. Et on se prête à rêver, on ne va pas tomber dans l'angélisme ou dans un côté, comme on dit, bisounours, mais on se prête à rêver que ces messages d'amitié, de fraternité qui passe au-delà des frontières, parce qu'on a des artistes sud-africains, brésiliens, japonais, que cette fraternité qu'il y a sur scène, elle soit le modèle de la société. Donc c'est important aussi que les enfants et les parents aussi soient exposés à des messages de tolérance, qui est vraiment un des messages forts et clés de ce spectacle.
Pourquoi c'est important de participer en famille à ce spectacle et plus particulièrement à ces sorties culturelles ?
D'abord, il y a la notion de partage. À l'heure où on est tous derrière nos écrans et rivés sur qui notre tablette, qui notre téléphone, se retrouver dans une salle avec sa famille et au milieu de centaines de spectateurs, il se passe quelque chose qui remet de l'humanité, qui réincarne en fait la relation. Et puis, c'est surtout une occasion d'échanger après, parce que comme c'est un spectacle que les parents ne viennent pas voir contraints pour faire plaisir aux enfants, mais dont ils repartent en disant « on a vu quelque chose de beau pour nous aussi », ils peuvent partager des moments de joie, d'euphorie, en reprenant les chansons que tout le monde connaît, mais aussi prendre des moments de ce spectacle pour parler de choses beaucoup plus sérieuses. La mort de Mufasa, c'est la mort du père. C'est des sujets avec lesquels, en tant que parent, on n'est jamais complètement à l'aise. Ça permet, comme l'avait été Bambi à l'époque, même si ça avait traumatisé des générations d'enfants.
J'en fais partie.
Permet aussi, sous un certain angle, de faire passer des messages.
Ouais. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce spectacle, c'est la place des enfants dans le show, puisqu'en effet, il y a deux enfants qui ont un rôle particulièrement important dans l'histoire. Vous allez nous le rappeler. Et j'aimerais bien que vous nous partagiez la partie plutôt backstage de cette participation d'enfants à ces spectacles. Comment est-ce que ça se passe ?
Alors, donc effectivement, il y a un petit Simba, une petite Nala, puisque l'histoire commence lorsque Simba est enfant. Et donc, on ne va pas faire interpréter Simba enfant et Nala enfant par des adultes. Donc, en réalité, on en a sept de chaque, sept Simba et sept Nala, parce que ce sont des enfants. Qu'il faut pouvoir respecter leur temps de repos, leur cours aussi, hein, la scolarité qui continue. C'est quelque chose qu'ils font en plus. Et donc, on a une école, on les forme, on les encadre. Il y a même un company manager dédié aux enfants, une nounou. Et on fait en sorte que les enfants tournent sur scène. Ils ne jouent que dans le premier acte. Parce qu'après, il faut qu'ils rentrent se reposer, se coucher. Et donc, il y a toujours deux enfants sur scène et deux en salle, de la même façon que pour les comédiens adultes. On va avoir des doublures ou des swings qui sont prêts à prendre le relais si jamais il y avait quelqu'un qui perdait la voix ou qui malencontreusement se blessait, ce qui peut arriver. Fort heureusement, on est peu exposé à ce genre de choses. Voilà, donc 14 enfants. La seule difficulté, au-delà des temps de repos qu'il faut avoir, c'est que, notamment chez les garçons, on mue très vite et que les qualités artistiques qui avaient été repérées quand on avait 8 ans, 7, 8 ans, 9 ans, du côté de 10, 11 ans, ça ne fonctionne plus toujours. Donc on est continuellement en train de chercher de nouveaux petits Simba et une nouvelle petite Nala pour pallier le fait qu'un enfant tout d'un coup chante avec une voix faussée par la mue.
Voilà. Comment ça se passe pour repérer des enfants artistes ?
Alors on fait des auditions, tout simplement. On va aussi, donc notre directeur de casting va voir, parce qu'il tourne dans des tas d'écoles, il va en province, il va parfois même à l'étranger trouver des futurs talents. Et puis derrière, il se présente qui veut. Régulièrement sur notre site, on dit, voilà, vous pensez être un futur Nala ou une future Simba, un futur Simba, venez vous présenter. Et voilà. Et après, c'est une longue... c'est un long périple pour eux, pour nous aussi, d'identifier le potentiel. Certains s'arrêtent à mi-parcours. Je crois que l'exemple qu'on peut donner, c'est le Simba adulte qu'on avait au démarrage du Roi Lion. Il avait fait l'école en tant qu'enfant il y a quelques années. Hein, c'est Gwendal Mariboutou. Il n'avait pas été retenu in fine, mais ça a été pour mieux revenir quelques années plus tard en tant que Simba adulte.
Incroyable. J'allais justement vous demander une petite anecdote autour du Roi Lion et des enfants dans le cadre de votre spectacle. Je ne sais pas si vous auriez une autre anecdote à partager.
Alors, sur les enfants que je réfléchis, sur les adultes, oui, il y en a une que j'aime partager parce que c'est un garçon absolument incroyable. C'est que le Scar d'il y a 13 ans est toujours le Scar. Olivier Bretman, il était le meilleur il y a 13 ans et il reste un incontournable Scar. Et en plus, c'est un garçon délicieux en dehors d'être un comédien hors pair. Sur les enfants, en fait, je ne suis pas dans la partie artistique, mais ce que j'entends, c'est qu'un enfant, c'est une pile. Voilà, et il faut pouvoir les canaliser. Et parfois, dans leur déplacement sur scène, bah, ils heurtent parce qu'ils ont tendance à vouloir en faire beaucoup ou trop. Ils peuvent heurter un autre protagoniste. Et notamment, dans le tableau, je voudrais déjà être roi. Il y a des grandes marionnettes et il est arrivé qu'ils s'en mêlent un peu les pinceaux.
Bon, on espère que personne n'a eu trop mal. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce que vous auriez une ou deux comédies musicales à recommander, en dehors évidemment du Royaume, à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de partager cette passion culturelle avec eux?
Alors, il y en a une qui est dans l'éther, on en entend parler régulièrement, et pourquoi pas un jour à Mogador, qui est Mary Poppins. Pour l'avoir vue, même en tant qu'adulte, on est scotché. Voilà, c'est vraiment un très 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 beau spectacle. Et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait... Je voudrais sortir un peu de l'univers Disney. Je crois que vous me posez une colle, parce que ça fait quelques années que je ne suis plus un enfant et que mes enfants ne sont plus des enfants.
Est-ce qu'un Singing in the Rain pour les enfants?
C'est joyeux, c'est rythmé, il y a beaucoup de drôlerie. Ça peut. Mais je crois en fait qu'un enfant lit avec ses propres yeux et peut décoder. On a Spamalotte, qui n'est pas un spectacle pour enfants, parce que c'est des Monty Python, c'est un humour un peu particulier. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants, et en fait, ils voient des chevaliers, ils voient des princesses, ils voient des pitreries. Ça les fait rire aussi. Mmh. Voilà. En fait, je crois que l'important, c'est d'éveiller les enfants à la comédie musicale, parce que ça peut leur donner le goût des matières artistiques dont on sait que, hélas, elles n'ont plus la part belle dans l'enseignement. Et puis, ça leur met tellement d'émotions positives et des émotions, encore une fois, incarnées. Et j'insiste beaucoup parce que je me désole de voir des gens qui vont dans des spectacles, pas seulement les comédies musicales, et qui ont les yeux rivés sur leur téléphone, ou qui ne voient qu'à travers le téléphone pour filmer, ce qui est interdit chez nous, ou photographier, alors que l'émotion, on la prend bien mieux quand on est concentré sur ce qui se passe sur scène.
Merci beaucoup, Olivier. Pour retrouver le Roi Lion, rendez-vous au théâtre Mogador. Jusqu'à quand se joue le spectacle?
Alors aujourd'hui, on est parti jusqu'en mai 2024. Le succès étant au rendez-vous, on jouera peut-être les prolongations.
Très bien. Eh bien, on vous le souhaite. À très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de Demain.